Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire à tiroir. L'enquête sur le meurtre de Valérie Bechtel en 1991 dans les Vosges, qui connaît 20 ans plus tard à La Rochelle un rebondissement tout à fait inattendu et très déconcertant. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec maître Gérard Welzer du barreau d'Épinal. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Imaginez, un jour, vous partez vous promener en forêt avec votre clébard, Pépouze, et Médor tombe sur un cadavre. C'est exactement ce qui se passe le 12 août 1991 à Thaon-les-Vosges, dans les Vosges donc. Vers 13h15, un type promène son chien dans une forêt qui s'appelle la forêt de la souche. À un moment, le chien flaire quelque chose dans un fossé, le maître s'approche. Le cadavre d'une jeune femme nue, allongée sur le côté droit, avec un torchon à carreaux étrangement noué autour du cou. Il se trouve que le type est gendarme. Il appelle donc ses collègues. C'est comme ça que ça commence. Quand il arrive sur les lieux, le légiste commence par prendre la température du sous-bois, la température ambiante. 24 degrés. Et sur le corps des mouches, mais pas de larves. Par ailleurs, compte tenu des rigidités cadavériques, je dirais que la mort remonte à 12 heures, hein, 12 heures maximum. 12 heures, ça veut dire qu'elle est morte la nuit dernière, autrement dit dans la nuit de dimanche à lundi. Notez bien ça parce qu'on va y revenir. Autre chose, docteur ? Oui, oui, c'est ces petites piqûres, là. J'en ai compté une cinquantaine. Des piqûres d'insectes ? Ah non, non, non. Pas du tout, je pencherais plutôt pour quelque chose de pointu, un outil, une pointe, quelque chose comme ça. Ça a été fait avant ou après la mort ? Avant son décès, oui, oui, avant son décès. Les gendarmes fouillent la forêt. Ils ne trouvent rien, pas la moindre trace. Juste une empreinte de pneu sur un chemin près du cadavre. Elle a dû être déposée là par une voiture. Hey, vous pouvez me faire un moulage de ces traces-là ? Il est vrai qu'on est tout près de la Nationale 57. Le meurtrier n'a pas eu à s'écarter de la route longtemps pour se débarrasser du corps. À l'Institut médico-légal de Strasbourg, le légiste complète ses premières constatations. Bon, elle a été étranglée. Je dirais en deux temps. D'abord avec les mains, et dans un deuxième temps avec le torchon retrouvé autour de son cou. Elle a été violée, docteur ? Non, non, en revanche, on trouve des traces de cannabis et un tout petit peu d'alcool dans son sang. Pas grand-chose, hein. 0,12 g. À peu près au même moment, une jeune femme débarque à la gendarmerie de Thaon-les-Vosges. Bonjour. Voilà. Viens vous voir parce que ma sœur a disparu, ça fait deux jours. Je suis très inquiète parce que chez elle, j'ai trouvé des traces de sang. Elle s'appelle comment, votre sœur ? Valérie. Valérie Bechtel, elle a 20 ans. Le gendarme qui la reçoit est assez physionomiste et il comprend tout de suite que cette Valérie Bechtel est la morte retrouvée dans le bois. On n'aura pas mis longtemps à coller un nom sur le cadavre. Dites, madame, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la disparition de votre sœur, Valérie Bechtel ? En fait, je suis allé la voir chez mes parents, à Chavelot. Ils sont en Espagne en vacances en ce moment. Il y avait sa voiture qui était dans la rue. Je suis rentré, et j'ai vu du sang partout sur le sol. Et aussi, il manquait son magnétoscope sous la télé. Entendu, madame. On va aller sur place, on vous reconvoquera. On va rentrer par la porte du garage, hein. Regarde la vitre est cassée. C'est peut-être par là d'ailleurs que et rendrait notre possible tueur. Bon, aucun doute, hein, elle a été tuée ici, la gamine. On a des traces de sang qui partent de sa chambre, qui descendent l'escalier jusqu'au garage, et de là, on peut imaginer qu'il la charge dans sa voiture, et qu'il l'amène donc dans la forêt de la Souge. Dans la chambre de Valérie, les gendarmes trouvent la confirmation que la gamine fumait bien des pétards. Une petite boîte en laiton qui contient une boulette de shit, des feuilles à rouler et une cigarette à moitié dépenaillée. Tout ça n'ayant probablement aucun rapport avec notre histoire. Enfin, une gamine de 20 ans qui fume du shit, c'est d'une banalité absolue. À moins que... Bon, eh bien vous connaissez la mécanique d'une enquête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me demande si vous m'écoutez assez souvent. Eh bien, on tente de reconstituer l'emploi du temps de la victime jusqu'à sa mort. On a retrouvé son corps le lundi midi. Le légiste dit qu'elle a été tuée la veille, le dimanche. Qu'est-ce qu'elle a fait tout ce week-end-là? Le samedi soir, par exemple. Eh bien, le samedi soir, elle était avec un de ses copains qui habite aussi à Thaon-les-Vosges. Et ce copain raconte la soirée aux gendarmes. Ah, elle est arrivée chez moi samedi, vers 5h30. On avait décidé d'aller au resto à Épinal, un chinois. Et donc elle a laissé sa voiture et puis on a pris la mienne. Et on est allé dîner. À quelle heure est-ce que vous êtes arrivé au restaurant chinois? Il devait être pas loin de 8h. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ce qu'on a mangé? C'est important? Oui, ça peut l'être. Je vous écoute. Eh bien, moi, du canard. Et elle, des nouilles sautées, je crois. Et à quelle heure est-ce que vous partez du restaurant? Vers 10h30 du soir. Et après, on s'est arrêté boire un coup en chemin. Vous avez bu quoi? Un gin fizz, je crois. Et vous rentrez à quelle heure chez vous? Vers 1h30 du matin. Et là, elle a repris sa voiture. Elle est rentrée chez elle. Je sais, ça peut paraître étonnant de demander tous ces détails. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez bu? Et à quelle heure? Mais en vérité, c'est essentiel pour l'enquête. Parce que ces informations sont à croiser avec les résultats de l'autopsie. Et notamment avec l'analyse de ce qu'on appelle le bol alimentaire, le contenu de l'estomac. Au cours d'une autopsie, l'estomac est systématiquement retiré et ouvert. Et son contenu versé dans une coupelle. Je connais des légistes qui commencent par le renifler. Et après, ils regardent le niveau de digestion. Car la mort, évidemment, interrompt la digestion. Et donc, quand on sait ce que la personne a mangé et à quelle heure, et qu'on compare ça au niveau de digestion des aliments, en l'occurrence des nouilles sautées, retrouvées dans l'estomac de Valérie, eh bien on peut savoir précisément quand elle est morte. Capito, dans la bouche du légiste de cette affaire, ça donne ça. Alors au vu de l'état des nouilles dans son estomac, la digestion est très très peu avancée. Vous me dites qu'elle a quitté le restaurant à 22h30? Alors je dirais qu'elle est décédée dans la nuit de samedi à dimanche, quelque part, entre 2h et 5h du matin. D'accord. Vous remarquerez au passage que, sur place, le lundi, le même légiste, au vu des rigidités cadavériques et du niveau de colonisation du corps par les insectes, situait la mort de Valérie vers 1h, 2h du matin, dans la nuit du dimanche au lundi. Et là, il nous dit non, ça n'est pas dans la nuit du dimanche au lundi qu'elle est morte. C'est la nuit précédente, celle du samedi au dimanche. La médecine légale est une science exacte, mais pas trop. Et maintenant, qui? Les gendarmes tombent sur une première piste, qui est le beau-frère. Enfin, l'ex-beau-frère, l'ex-mari de sa sœur. Il paraît qu'il en pinçait pour Valérie. Il est donc placé en garde à vue. Et il reconnaît que... C'est vrai qu'elle me troublait. Je l'avais vue à poil une ou deux fois. Je dois reconnaître que si elle m'avait proposé de baiser, J'aurais pas dit non. Mais il a un alibi la nuit du meurtre, donc ça n'est pas lui. Exit le bof. Alors peut-être un des nombreux amis de Valérie. Une bande avec laquelle elle faisait la teuf régulièrement, bibine et pétard, et avec lesquelles elle bézouillait de ci, de là. C'est une piste à creuser, ça. Un de ses ex, Yann, par exemple, que tout le monde appelle la grenouille. Il est nerveux depuis la mort de Valérie. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous, monsieur, le samedi soir? 2 heures du matin, je crois. Et là, les gendarmes établissent qu'il ment. Il est rentré chez lui à 5 heures du mat. Mais il n'y a pas que Yann qui est bizarre depuis le meurtre de Valérie. Il y en a aussi un autre de ses ex, Raphaël. Il est d'autant plus intéressant qu'il sort de tôle. Oh, pas pour meurtre, hein. Pour trafic de cannabis, il a pris 6 mois. Et les gendarmes le trouvent bizarre lui aussi. Alors de manière informelle, il l'interroge. Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez une piste? Et là, Raphaël lance un pavé dans la mare. Moi, je pense savoir qui a volé le magnétoscope. Ah bon? Et qui d'après vous? Yann. Enfin, en tout cas, je sais qu'il en cherchait de magnétoscope. Et d'ailleurs, je lui avais donné le contact d'un gars que je connais qui deal des magnétoscopes. Donc je me dis que peut-être c'est lui, quoi. Raphaël vient de balancer son copain Yann. Et pas un copain parmi d'autres, hein. Son meilleur copain. Enfin, son ex-meilleur copain, parce que depuis quelque temps, depuis le meurtre de Valérie, en vérité, ils ne se parlent plus. Les gendarmes se disent « On est près du but ». Alors, cette fois-ci, pour leur coller un coup de pression à tous les deux, ils les placent en garde à vue, Yann et Raphaël. Et je vous propose d'assister à leur interrogatoire à tous les deux. Vous n'allez pas être déçus. Yann est interrogé le premier. Vous avez dit la première fois que nous nous sommes parlé, monsieur, que vous êtes rentré chez vous la nuit du meurtre à 2 heures du matin. Mais nous, on sait que vous êtes rentré beaucoup plus tard, à 5 heures. Explication? C'est vrai que je suis rentré à 5 heures. Je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais la trouille que vous me soupçonniez. Il paraît, monsieur, que vous cherchiez un magnétoscope. Oui? Oui, c'est vrai. Mais c'est Raph qui a eu l'idée de voler ce magnétoscope. De voler ce magnétoscope? Yann vient de balancer son copain à Raphaël, lequel Raphaël l'a lui-même balancé avant. Les gendarmes se disent « On est tout près du but ». Mais Yann n'en a pas fini. La nuit du crime, je suis allé chercher Raphaël chez lui, vers 3 heures du matin. Il était d'accord pour piquer le magnétoscope des parents de Valérie. Donc on est allé chez elle. Quand on est arrivé, moi je suis resté dans la voiture. Et lui, Raph, il est rentré dans la maison. Et par où il est rentré? Par le garage. Et puis 10 minutes après, j'ai entendu un cri. Et là, j'ai démarré, je suis parti. Yann accuse maintenant son pote Raphaël d'avoir tué Valérie, de l'avoir étranglé. Et maintenant, venez avec moi dans le bureau d'à côté, assister à l'interrogatoire de Raphaël, justement. Bien, monsieur, je vous informe que votre ami Yann vous accuse du meurtre de Valérie Bechtel. Il a dit ça, Yann? Il dit que c'est moi qui l'a tué? Mais j'y étais pas, moi, chez Valérie cette nuit-là. J'y étais pas! Retour dans le bureau d'à côté, où le copain Yann est encore interrogé. Et là, changement de version. Bon, en fait, on est rentrés tous les deux dans la maison. Vous avez dit tout à l'heure que seul votre copain Raphaël était rentré. Oui, mais on y était tous les deux. Moi, j'ai commencé à débrancher le magnétoscope. Et puis là, j'ai entendu crier « Arrête, arrête !» C'était Valérie. Et là, je suis allé dans sa chambre. Et j'ai vu Raphaël qui lui collait une beigne. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Il m'a dit, casse-toi, ça te regarde pas. C'est entre elle et moi. Alors je suis rentré chez moi avec le magnétoscope. Et il est où, ce magnétoscope? Bah, depuis, je l'ai balancé à la décharge. Les gendarmes vont immédiatement à la décharge et ils retrouvent le magnétoscope. Quelques heures plus tard, nouvel interrogatoire de Yann et nouvelle version. En fait, je vous ai dit que j'étais parti. C'est pas vrai, en fait. Je suis revenu. Mais trop tard. Il avait tué Valérie. Et là, qu'est-ce que vous avez fait, alors? Ben, j'ai aidé Rafa à transporter le corps au bois de la souche. Oh là là, ces changements permanents de version, c'est pénible. Confronté à ce nouveau scénario, Raphaël, lui, ne bouge pas d'un pouce. J'étais pas là, moi. J'étais pas là. Une dernière chose, monsieur. Voici un objet que sans doute vous connaissez. À quoi sert cet objet? Le gendarme vient de présenter à Raphaël une brochette. Et vous savez que le légiste a trouvé des piqûres sur le corps de Valérie, peut-être fait avec un objet piquant, avec une brochette. Ça, ben, ça sert à piquer les gens. Bilan de cette partie de ping-pong, ils sont tous les deux inculpés pour meurtre, on disait comme ça à l'époque, et tous les deux écroués. Et à la juge d'instruction maintenant de tenter d'y voir plus clair. Puisqu'a priori, ils sont tous les deux dans le coup. Il est peut-être temps que je vous balance leur blase. Yann Bello et Raphaël Meillant. Alors maintenant, mettons-nous à la place de la juge. À la lecture du dossier et des différents interrogatoires, qu'est-ce qui émerge? Eh bien d'abord que Yann Bello est un gringalet. Si c'est lui qui a tué, il n'a pas pu transporter le corps tout seul. Donc au minimum, Raphaël Meillant l'a aidé. Il a beau dire qu'il n'était pas là, la juge ne peut pas le croire. Alors que Yann Bello, lui, il reconnaît qu'il était sur place. Et donc il est plus crédible. À ce stade, le dossier accuse plutôt Meillant et réduit Bello à un rôle de complice dans l'évacuation du corps. Pour tenter de démêler le vrai du faux, la juge organise une reconstitution. Évidemment, Meillant qui nie n'a rien à dire, logique. Alors que Bello assume sa part. Et donc il montre comment il a débranché le magnétoscope, et puis il s'en va, et puis il revient, et puis il montre comment il a aidé à mettre le corps dans la voiture. Là encore, avantage, Yann Bello. La juge décide alors de les mettre face à face dans son bureau. Et là, toujours même scénario. Yann Bello donne toute une foule de détails, alors que Raphaël Meillant reste dans le déni. Une fois de plus, avantage, Bello. Et c'est pas fini. Un an et demi après le meurtre, un ex-détenu de la maison d'arrêt d'Épinal dit que Raphaël Meillant lui a fait des confidences. Il m'a dit qu'il était saoul, qu'il avait fumé, que la fille l'a repoussé, et que c'est lui qui l'avait tué. Une fois de plus, avantage Bello, même si un ex-détenu, ça peut mentir. Que conclut la juge de tout ça? Eh bien que Raphaël Meillant est plus sûrement le meurtrier que Yann Bello. Et donc Yann Bello est libéré sous contrôle judiciaire, alors que Raphaël Meillant reste en prison. Et 5 ans après le meurtre, Raphaël Meillant est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, et Yann Bello pour vol, recel de cadavres, et non-assistance à personne en péril. Gros avantage, Bello. Le procès s'ouvre en mars 1997 devant la cour d'assises d'Épinal. Yann Bello, comparé libre. Tandis que Raphaël Meillant est conduit dans le box, menotté. Ça compte pour les jurés, ça. Et donc, une fois de plus, gros avantage Bello. Le procès dure 3 petits jours. L'avocat général en conclut que c'est Raphaël Meillant qui a étranglé Valérie Bechtel. Et les jurés le suivent. Raphaël Meillant est condamné à 17 années de réclusion criminelle pour meurtre et Yann Bello prend 2 ans de prison pour vol et recel de cadavres. Il les a déjà faits et donc il est libre. Il n'y a pas d'appel à l'époque. Le jugement est définitif. Mais depuis sa prison, Meillant continue de clamer qu'il est innocent. Il prend une nouvelle avocate, une vedette de la radio et de la télévision, maître Sylvie Noakovitch, acolyte de Julien Courbet. Elle dépose une première requête en révision. Refusée, pas assez d'éléments nouveaux. Elle dépose une deuxième requête en révision. Rejetée, elle aussi. Bon ben voilà, c'est cuit pour Meillant. Il n'a qu'à purger sa peine de prison. Et logiquement, après 9 ans, c'est-à-dire à la moitié de sa peine, il est remis en liberté conditionnelle. Mais il dit toujours qu'il est innocent du meurtre de Valérie Bechtel. Nouvelle demande de révision. Et cette fois, ça passe. Au pas longtemps. Hein. La commission de révision finit par conclure que non, il n'y a pas de raison de douter de la culpabilité de Raphaël Meillant. Et là, vous vous dites, bon ben, c'est fini. Elle est un peu courte, l'histoire d'Ondelat aujourd'hui. Hein. Il s'est pas foulé, la feignasse. J'exige des excuses immédiates, car il y a une suite. Vingt ans après le meurtre de Valérie Bechtel à La Rochelle, une jeune fille de 24 ans, Charlène, est retrouvée morte dans son appartement. Elle est nue. Elle a été rouée de coups sur tout le corps et le visage, et elle a été étranglée, d'abord avec les mains, et ensuite avec une serviette de bain. Et vous savez quel est le nom de cette fille ? Charlène Bello. C'est la femme de Yann Bello, innocentée il y a 20 ans du meurtre de Valérie Bechtel. Incroyable rebondissement. Alors répétez-le à voix haute. Je vous entends, hein. Ondelat n'est pas une feignasse. Bien. Charlène et Yann Bello étaient en instance de divorce. Il est interpellé à la sortie d'un restaurant, passablement bourré, et en possession de la carte bancaire de sa femme morte. Il est placé en garde à vue. J'avais plus un radis. Alors j'ai voulu emprunter de l'argent à Charlène, elle n'a pas voulu. Alors on s'est engueulé, et puis on s'est battu, coup de pied, coup de poing. Et puis à un moment, ben, la tête de Charlène a heurté le sol. Elle saignait pas mal. Disons que ça nous a calmés. Alors on a pris une douche, tous les deux. Et puis j'ai nettoyé le sang dans le salon. J'ai aussi mis mes fringues dans la machine à laver. Et puis je suis allé acheter des bières avec la carte de Charlène. Elle m'a filé son code. Et quand je suis rentré, j'ai voulu qu'on reprenne la discussion. C'était pas normal qu'elle veuille pas me prêter d'argent. Et là, elle m'a dit qu'elle avait bien fait de me quitter. Elle m'a dit d'ailleurs, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Et là, ben, j'ai vu rouge. J'ai commencé à serrer son cou. C'était pas voulu. Ça m'a dépassé. Ok. Au moins, il reconnaît les faits. Sauf que son histoire de dispute, de coups de poing échangés ne tient pas. Il n'y a pas une égratignure sur le cadavre. C'est important. Si c'est une impulsion non contrôlée, c'est un meurtre. S'il est venu pour la tuer, c'est un assassinat. Ça ne s'arrange pas pour lui avec l'autopsie du corps de Charlène. Alors, j'ai observé une lésion anale sur le corps. Donc je dirais qu'elle a été violée, cette fille. Il n'en avait pas parlé. de ça? Yann Bello est déféré devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Et il ajoute quelques détails. J'ai commencé à l'étrangler avec les mains. Et après, j'ai attrapé une serviette. Et j'ai serré jusqu'à qu'elle ne bouge plus. Elle avait encore les yeux ouverts. La coupe est pleine. Yann Bello est mis en examen pour assassinat et viol. Et évidemment, les journalistes s'emparent de cette histoire à cause de la serviette qui rappelle le torchon qui a servi à étrangler Valérie Bechtel il y a 20 ans. Est-ce que finalement, ça n'est pas Yann Bello qui a tué Valérie Bechtel? Même étranglement, même manière de finir le travail avec un bout de tissu. C'est très troublant. Est-ce qu'il y a 20 ans, on n'a pas condamné un innocent? Raphaël Meillant. Son avocate, en tout cas, maître Novakovic, se jette sur l'occasion, comme la vérole sur le bas clergé. Nouvelle requête en révision, la quatrième. Elle est assez vaine, en vérité, parce que pour réviser la condamnation de Meillant, il faudrait des éléments nouveaux dans l'affaire Bechtel, pas dans une autre affaire. Après tout, Yann Bello, qui vivait dans une certaine confusion, qui picolait beaucoup, qui venait de planter une entreprise de traiteur à domicile, a peut-être voulu reproduire le crime qu'il n'avait pas commis. Le procès de Yann Bello pour le viol et le meurtre de sa femme s'ouvre devant les assises de Saintes le 8 octobre 2014. Lui continue de dire qu'il a agi sous l'effet d'une pulsion. Mais l'avocat général n'y croit pas. Charlène l'avait quitté pour un autre homme. Il ne le supportait pas. Il a prévu de la tuer. Et il la tue. Pour l'avocat général, il y avait donc préméditation. Ça n'était pas un meurtre, mais un assassinat. Il requiert la réclusion à perpétuité. Après 3h30 de délibéré, Yann Bello est finalement condamné à 25 ans de prison. Un an plus tard, la cour de révision rejette, comme prévu, la requête déposée par Raphaël Meillant. Mais c'est un coriace, et son avocate aussi. Ne doutez pas d'une chose, jusqu'à sa mort, il fera des demandes de révision. Et vous, si vous voulez un bon conseil, ne tirez pas trop de plans sur la comète. Il est toujours facile d'avoir un avis, une opinion sur une affaire. Et je me doute que dans votre tête, Raphaël Meillant est devenu en deux temps trois mouvements la victime d'une erreur judiciaire. Mais vous n'étiez pas à son procès, n'est-ce pas? Et moi non plus d'ailleurs. Alors nous n'avons pas le droit d'avoir d'opinion. Des doutes peut-être, mais rien de plus. Incroyable histoire que nous allons maintenant débriefer avec vous, Gérard Velzer. Vous êtes avocat au barreau d'Épinal. Dans cette affaire, vous avez été avocat de la partie civile et vous défendiez les intérêts de la famille Bechtel, de toute la famille Bechtel.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez, Gérard, du jour où vous apprenez que Yann Bello a tué sa femme avec le même mode opératoire que dans l'affaire Bechtel?
Oui, j'ai eu un coup de téléphone d'un journaliste parce que l'avocat de M. Meillant, l'avocate, avait appelé plusieurs journalistes en disant « ça y est, on a la preuve que Raphaël Meillant est innocent puisque M. Bello vient de recommencer et a tué sa femme ».
Et vous avez un doute à ce moment-là ?
Moi, à ce moment-là, si vous voulez, il n'est jamais neutre d'apprendre que celui qui 20 ans avant était passé aux assises vient de tuer sa femme. Ça ne changeait rien pour moi au dossier tel que je l'avais vécu devant la cour d'assises des Vosges, où M. Meillant n'avait pas cessé de mentir, et où moi, devant la cour d'assises des Vosges, j'avais toujours dit Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là entre M. Bello, M. Maillan et la malheureuse Valérie victime, Valérie Bechtel? Eux deux seuls le savent. Mais l'attitude de Maillan consistant à nier l'évidence alors qu'on avait toutes les preuves qu'il était là, à dire, à mentir, à dire ce qui est blanc et noir et blanc, a fait que tout ce qu'il disait était mensonge. Et que seule la version de M. Bello était retenue.
On avait beaucoup de preuves, toutes les preuves, dites-vous, c'est pas vrai?
Si. On avait déjà les preuves.
On a des évidences, mais des preuves.
Alors, comme vous l'avez justement rappelé tout à l'heure, Christophe, vous n'étiez pas au procès. Premièrement, vous savez, ce qu'on appelle la magie des assises, c'est important, Christophe, vous le savez encore mieux que moi. Et le pauvre malheureux Jean Bechtel, père de Valérie, victime, était aux assises, il était d'une dignité exemplaire, et il a suivi tout. Et il ne cessait, à un moment il s'est tourné vers Raphaël Maillan en lui disant « Raphaël, tu mens, regarde-moi les yeux dans les yeux ». Et Raphaël Maillan n'a même pas osé le regarder dans les yeux parce qu'il était pris. Les mensonges, c'était quoi? Monsieur Maillan, le lendemain de la mort de Valérie, a appelé un de ses copains en disant « J'ai passé la nuit dans une boîte de nuit, le Diams ». Et on a vérifié, c'était faux. Lorsque les gendarmes disent à Monsieur Maillan « Pourquoi vous avez dit ça pour vous constituer un alibi ?»« Non, mais j'ai dit ça, mais j'ai voulu plaisanter ». Monsieur Maillan, on a une de ses copines qui dit « Le lendemain des faits, on a été à la piscine, lui et Bello nous ont dit « Surtout, ne dites rien, n'en parlez pas ». Monsieur Maillan, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Christophe, parce que vous connaissez très bien le dossier, lorsque les gendarmes lui montrent un pic à viande, et qu'il lui pose spontanément la question « À quoi ça sert ça ?» alors que c'est un pic à viande, il dit « Ça sert à piquer les gens
oui, »,
sachant qu'on a retrouvé...
C'est très troublant, je reconnais.
Absolument, sachant qu'on a retrouvé, Christophe, 49 traces de piqûres sur le malheureux corps de Valérie Bechtel. Et c'est ainsi, il n'a cessé de mentir. Donc, savoir exactement ce qui s'est passé entre Bello, qui est un criminel, et qui a été condamné la première fois et la deuxième fois, et Monsieur Maillan, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que le Raphaël Maillan de 1991 n'est pas le Raphaël Maillan d'après la sortie de prison. En 91, Monsieur Raphaël Maillan sort de prison pour trafic de stupéfiants. C'est un petit voyou. Et à l'époque, il n'est pas celui qui, visiblement, la prison où il a passé des diplômes, où il est sorti et où il dit « Je suis innocent ». C'est son droit de dire « Je suis innocent ». Vous savez, la justice a pris des précautions parce que la cour de révision s'est réunie, c'est rare. La cour de révision s'est réunie au siège de la cour de cassation en septembre 2015, au mois de juin 2015, et a rendu sa décision le 24 septembre 2015. Il y a eu une audience où l'avocat de M. Maillan a pu longuement plaider avec des choses qui se sont révélées fausses. Elle a fait citer un témoin, chose rare. Le témoin est venu, c'était un expert du dossier de M. Bello. L'avocat disait, mais regardez, l'expert, il dit qu'il y a des similitudes entre l'expertise d'Épinal et l'expertise de la deuxième affaire.
Alors on lui posait
question à cet expert, et je lui dis, mais vous avez eu vos sources, vous avez eu connaissance du premier dossier? Non, j'ai regardé sur Internet. Écoutez, c'est pas sérieux.
Les experts ne sont pas sérieux, mais ça, on en est tous les deux convaincus.
Le mot expert, vous savez, est un mot qui, dans la langue française, présume une compétence. Il faudrait peut-être faire attention à l'utilisation de ce mot.
Ce que j'entends, c'est que, au fond, on la pose, la famille Bechtel pense que tous les deux y étaient, et qu'au fond, d'une certaine manière, peu importe lequel des deux a porté le coup. Il y a une collusion parfaite entre les deux.
Vous savez, Jean Bechtel, qui est malheureusement décédé, et il faut savoir qu'une famille de victimes comme ça, depuis 1991, n'a jamais pu faire son deuil, puisque l'affaire a fini judiciairement en 2015, rendez-vous compte. Eh bien, la famille Bechtel disait la chose simple, Raphaël Maillan ne cesse de mentir, il était là. Bello, nous ne croyons pas tout ce qu'il dit, ils étaient tous les deux mêlés. Savoir exactement ce qui s'est passé, on ne sait pas, ils sont tous les deux responsables du meurtre de Valérie.
Quand tombe le verdict qui condamne Maillan et pas Yann Bello, ça leur va?
Non, vous savez, la famille de Valérie a toujours pensé qu'ils étaient les deux responsables de la mort de Valérie.
Quel serait le mobile de ce crime? Parce que donc, on a comme seul mobile cette histoire de magnétoscope. Mais enfin, on a quand même du mal à penser que ces deux types participent au meurtre de cette femme pour lui piquer son magnétoscope.
Oui, qu'a établi l'enquête? L'enquête a établi, premièrement, que Raphaël Maillan et Yann Bello avaient comme projet de voler le magnétoscope. chez les parents Bechtel pour le revendre à une personne qui a confirmé cette revente. Ça, c'est établi. Deuxièmement, l'enquête est établie, contrairement à ses dénégations, que Raphaël Maillan était follement amoureux de Valérie, alors qu'elle l'avait arrêté de sortir avec lui. Et troisièmement, ce soir-là, ils ne vont pas tuer. Ils viennent chez les parents de Valérie pour voler le magnétoscope. Ils ne savent pas que Valérie dort là. Et Valérie est morte, malheureusement, parce qu'elle était là par accident. Elle les surprend, et à ce moment-là, 49 coups de pique à viande, elle est étranglée, et voilà ce qui se passe. Et la réalité, c'est qu'elle ressort morte, et qu'ils étaient tous les deux présents, et que M. Maillan, je l'ai toujours dit devant la cour d'assises des Vosges, le fait de mentir autant, la cour d'assises l'a très mal pris. Alors après, quelle est la vérité? Eux seuls le savent. Mais la question, parce que Yann Bello, 20 ans après, tue sa femme, cela veut-il dire que Maillan est innocent? Bien sûr que non, puisque Maillan n'a cessé de mentir. Il y a des tas de mensonges, son alibi était faux, ses affirmations étaient fausses. Il était bien là le soir-là, et il a été un des deux responsables de la mort de Valérie.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre scénario? Au fond, officiellement, ils viennent tous les deux pour voler le magnétoscope, mais Maillan a dans la tête de régler au passage son compte à Valérie. Il ne savait vraiment pas qu'elle était là?
Non, il ne le savait pas et le dossier ne montre pas qu'il savait qu'il était là. Le dossier montre que chacun, les deux, pensait qu'elle n'était pas là.
Ce qui joue aussi en faveur d'un rôle secondaire de Yann Bello, c'est sa reconnaissance, sans ambiguïté, de sa participation au vol du magnétoscope et à l'évacuation du corps. Et à l'opposé, ce qui indique que Raphaël Maillan est le meurtrier, c'est que lui ne reconnaît rien, au fond.
Tout à fait. Vous savez, Raphaël Maillan, au cours du procès, vous lui montriez une feuille blanche, il disait que c'était noir. Les jurés et la cour ont été particulièrement plus qu'agacés. Il faut savoir que Raphaël Maillan, qui était défendu par deux excellents avocats, Thierry Moser et Alain Bégel, a pris plus que les réquisitions de l'avocat général.
Il y a une hypothèse aussi, mais là il faudrait envisager que Bello soit super méga intelligent, c'est que il
ce qui n'était pas le cas.
Il reconnaisse sa part du crime pour ne pas avoir à reconnaître qu'il a tué.
Écoutez, moi je n'aime pas les hypothèses, et le dossier a montré quoi? Il y a des certitudes, c'est que tous les deux étaient présents, que tous les deux ont participé à la mort de Valérie, et que Maillan n'a cessé de mentir. Et que le Maillan, 20 ans après, qu'on a vu devant la cour de révision, qui est quelqu'un qui se présente dans de bonnes conditions, n'est pas le Maillan de 20 ans avant, qui était un petit voyou qui sortait de prison.
On va se quitter là, Gérard Velzer. Merci beaucoup d'avoir accepté de revisiter cette histoire très ancienne. Je suis toujours surpris de voir comme ça les avocats se souvenir des détails d'une histoire alors que depuis ils ont plaidé des tas d'affaires. J'adore Gérald Velzer, c'est un très très bon avocat du barreau d'Épinal. Et on se connaît bien tous les deux, vous avez entendu qu'on s'appelait par le prénom. Je vous invite, parce que j'ai remarqué que vous étiez très mou du genou, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Nous avons créé très récemment un compte On de la Traconte sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Et je note que vous les suivez, certes, mais mollement. Je vous invite à le faire plus fermement.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix ou l'histoire du tueur en série Karl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Sériland et vous le trouverez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.